Alors, je suis très encouragé. Quand on, jeudi matin, on a prié, et puis voilà, Robert reçoit une parole d'introduction, ça va dans le sens de la parole que j'ai ce matin. Ce matin, en première partie, tout ce qui a été donné va dans le sens aussi de cette parole, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Alors, j'ai un petit diaporama. Donc, en fait, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir au livre de Michée. Michée chapitre 6, verset 8, mais on va voir le verset apparaître. Hein? Michée 6, verset 8. Il y a un mois, on avait notre culte au lendemain là, des attentats, puis on a modifié cette première partie du culte. Verset 8, Michée 6, 8. Et dans ce temps de prière, on a prié pour les victimes. On a, voilà. D'un seul coup, j'ai eu cette parole de Michée 6:8. Et je sentais que c'était vraiment une parole à méditer. Et donc, dans les jours qui ont suivi, j'ai médité cette parole. Et j'étais attentif aux circonstances qui m'entouraient aussi. Parce que souvent, quand Dieu nous donne une parole, il y a des circonstances par lesquelles Dieu nous parle aussi, en lien avec cette parole. Alors on va lire ce passage. Voilà, on y arrive tout doucement. Voilà, Michée 6:8. Dans le contexte, c'est intéressant, dans le contexte, Dieu interroge son peuple et dit, mais enfin, est-ce que vous croyez que c'est des milliers de sacrifices que j'attends de vous? Est-ce que vous croyez que c'est des tonnes d'huile? Et Dieu répond, hein, on t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, voilà, le voilà, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il me semblait que le Seigneur nous disait... Non, tu vas trop vite là. Ouais, tu vas trop vite. Juste avant. Voilà. Donc il me semblait que le Seigneur nous disait... Ouais, la deuxième, c'est bon. La deuxième. Ouais, c'est bon. La deuxième, ouais. Voilà. Souviens-toi de ce que tu as appris. Souviens-toi de ce que tu as appris. C'est le temps véritablement de mettre ma parole en pratique. J'avais l'impression que le Seigneur me disait ça. C'est le temps, en ce moment particulièrement, de mettre... Enfin, c'est tout le temps, hein, mais il y a un temps d'urgence. On nous parle de temps d'urgence et Dieu nous dit le temps d'urgence à nous, c'est de mettre en pratique cette parole. C'est le temps. Voilà, troisième. Ouais, voilà, c'est que tu pratiques la justice. Qu'est-ce que nous dirait le prophète Michée qui a reçu cette parole en son temps? Qu'est-ce qu'il nous dirait pour interpréter cette parole? Je crois qu'il nous dirait, rappelez-vous, il y a un mois, le dimanche de l'église persécutée, vivre la Bible, vivre le livre. Je crois que Michée nous dirait, c'est le temps de vivre le livre, d'accord? De vivre la loi de Dieu. Hein. Et vous vous souvenez de cette remarque d'un pasteur sous l'église persécutée qui a dit, seuls les chrétiens qui ont la Bible, qui lisent la Bible, le livre, et qui aiment ce livre, qui aiment cette parole, seuls ceux-là font la différence. D'accord? Alors, en notre temps, 21e siècle, l'appel à vivre le livre est toujours là. Mais ce livre, il contient maintenant le Nouveau Testament. À la différence du temps de Michée, il contient toute la révélation de la croix, la résurrection. Et ce livre, maintenant, nous révèle le Christ pour qu'il règne en nous. Voilà la justice à pratiquer. Voilà. Ouais. Avec ce cœur et cette croix. Hein? Pratiquer la justice pour nous. Ce que Dieu nous dit, c'est laisse le Christ régner en toi. C'est bien sûr pas la justice des djihadistes, c'est pas la justice promulguée par un mouvement politique. n'est pas la justice des hommes. C'est même pas la justice des religieux. Hein. Et Paul, j'aime beaucoup, je l'ai pris dans une version français courant, il explique très très bien de quelle justice il s'agit. Romains 10, il dit « Je sais par expérience que mes frères juifs ont une véritable passion pour Dieu et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Malheureusement, leur passion n'est pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairée, mal orientée, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare juste en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas, notez bien, à la justice offerte par Dieu. Ils ne se soumettent pas à la justice offerte par Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris au sujet de la justice? Donc, la vraie justice nous est offerte par Dieu. Tu peux passer la suivante? Oui, oui, tu as fait le précédent. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a l'air rayonnant, hein, cet homme-là? Mais bon, enfin, c'est une image. Je ne sais pas. Voilà, on voit Christ sur son trône. Voilà, il a un grand cœur. Hein. Voilà, c'est ça la justice, c'est ça pratiquer la justice. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pratiquer la justice, c'est laisser Christ régner en moi. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est le temps d'urgence, que Christ règne. Et il y a une image reçue, tu peux passer à la suivante, dans un temps de prière au Château Blanc, récemment, l'image d'une armée qui avançait, qui montait sur une montagne, avec une bannière, comme bannière un drapeau blanc. Et donc le frère qui avait reçu cette parole comprenait que ce drapeau blanc signifiait un cœur qui a capitulé devant Dieu, qui se laisse purifier. C'est pour ça que voilà, tout ce qui a précédé dans le culte était intéressant, hein. Voilà, c'est, qui signifie un cœur qui a capitulé, qui a fait la paix avec Dieu et avec lui-même, et qui porte le fruit d'un esprit doux et paisible, ferme en même temps, et qui porte le caractère du Christ. Et la pensée, c'est qu'aujourd'hui, l'armée que Dieu cherche, c'est une armée de cœurs avec ce drapeau blanc, avec ce cœur purifié, pacifié. Et c'est cette armée-là qui va faire la différence. C'est cette armée-là qui va avoir la victoire. Alors, question, est-ce qu'on a tout encore soumis à Jésus-Christ? Est-ce qu'on a tout soumis à Jésus-Christ? Vous savez, dans les jours qui ont entouré cette période où j'ai reçu ce verset, dans les 24-48 heures, hein, pom, Dieu m'a parlé, et il m'a montré des choses qui font obstacle dans ma propre vie. Il a mis le doigt sur des craintes humaines qui n'étaient pas justes. Et il m'a fait comprendre, il m'a dit, Jean-Luc, c'est le temps de traiter ça, hein, maintenant. C'est le temps de traiter. Est-ce qu'il y a des craintes parfois qui sont en vous elles sont là depuis des années, vous ne les avez pas traitées? Le Seigneur dit, c'est le temps de traiter. Ça peut être des craintes, ça peut être autre chose. D'accord? Ce n'est plus le temps d'être négligent. Le Seigneur prépare son épouse pour qu'elle soit sans rides, sans tache. Je fais signe à des jeunes qui sont là. Libérée de tout ce qui entrave son règne. C'est le temps de ne pas négliger des racines peut-être de colère, d'amertume, peut-être des traumatismes enfouis. On a parlé de guérison, on a parlé de plonger dans cette rivière d'amour, mais oui, c'est le temps, c'est juste. Le Seigneur veut mettre à la lumière pour restaurer, guérir. Est-ce qu'on veut collaborer avec lui? Est-ce qu'on comprend l'urgence de traiter cela maintenant? J'ai trouvé sur Facebook, quelquefois on trouve des bonnes choses, quelquefois il y a des choses très mauvaises, mais on peut trouver des bonnes choses. Et une amie avait envoyé un texte qui est tellement long que je ne vais pas vous le lire en entier, seulement une petite partie, et qui montre bien l'enjeu, et qui montre bien de quel côté notre zèle doit être en priorité. Et ce texte dit ceci, voilà, je lis qu'une petite partie. « Ah, si l'on mettait autant de zèle à défendre le droit aux crèches dans l'espace public, qu'à désencombrer nos propres vies de tout ce qui empêche Jésus de naître à chaque instant dans l'espace intérieur de nos cœurs. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre les crèches, d'accord, mais ça veut dire où est la priorité dans notre zèle. Ah, si l'on attisait le même feu pour refuser de faire tomber les crucifix des murs de nos écoles ou de nos routes municipales que pour accueillir la croix du Christ dans nos propres vies et l'y planter dans nos cœurs comme l'arbre du pardon et de la guérison. La vie intérieure. La vie intérieure, urgence. Ouais. Alors, de cette pratique de la justice découlent deux attitudes qui reflètent d'ailleurs le caractère du Christ et qui complètent donc le verset suivant, que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. On a manifesté ce fruit de la miséricorde. Hein. C'est, je me souviens d'avoir médité il y a quelque temps Paul qui disait, qui parlait de Dieu comme le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Le pape François est un peu prophète quand il proclame l'année 2016, l'année de la miséricorde. Un peu prophète, oui. J'ai trouvé cette définition de la miséricorde hein, dans un article intéressant. Le mot miséricorde désigne en hébreu le cœur profond, les entrailles qui frémissent sous le coup de la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade ou perdu? La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour un autre, et particulièrement de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu souffre avec nous. Il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et notre condition d'homme pécheur. Et dans un grand mouvement d'amour pour nous, il nous manifeste sa tendresse, nous aide concrètement dans nos vies, nous témoigne sa miséricorde, nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nous envoie son Fils. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous invite à faire de même envers nos frères. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Diapo suivant. Ah, sur mon ordinateur, il bouge, mais là, il ne bouge pas. Le cœur. Bon, c'est pas grave.
Ah, si, il bouge.
Ah, il bouge, ouais, c'est bien. Bon, voilà. Très bien. Hein, en nous restaurant, en nous guérissant. Voilà. Le Seigneur veut libérer en nous ce cœur miséricordieux. Sans ce cœur miséricordieux, on ne peut pas prier et agir, j'en suis convaincu, avec efficacité pour la guérison de la France. Rappelez-vous, hein, le beau message de Robert il y a 15 jours, cette nouvelle perspective pour l'Église, le premier mot, la première valeur, la première mission, aimer. Donc on est en plein dedans. Aimer la miséricorde, on est en plein dedans. Désirer être touché profondément dans nos entrailles comme Dieu l'est pour nous. Être prompt à pardonner. Parce que dans notre ADN, il y a ce statut de racheté. Sans cesse, on a conscience que Dieu nous a rachetés d'une dette incroyable. Donc, ce cœur miséricordieux coule de cet ADN. Et dans cette parole, diapositive suivante, j'entends que nous ne sommes plus dans le registre de l'accusation. Oh. Nous ne faisons pas le jeu de l'accusateur. Nous avons des témoignages partout autour de nous des gens qui sont dans le jeu de l'accusateur. T'as fait ci, t'as fait ça. Et si vous regardez Internet et Orange, on relève la faute, l'écart, la maladresse, la boulette d'une star, du people ou d'un homme politique. Le jeu de l'accusateur. Ouais. Nous sommes du côté de l'arbre de vie, non de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes du côté, bien sûr, de la vérité, mais la grâce avec la vérité toujours. Car notre but est de donner la vie et non de juger, de condamner. Nous devons réfléchir à tout ce que nous faisons. Est-ce que ça communique la vie ? Bien sûr, dire la vérité, mais avec grâce, avec amour, et communiquer la vie. Et donc, ce que je dis là est valable dans pour notre rapport avec les autorités. Ces autorités ont un lourd travail en ce moment, hein. C'est clair, de surveillance, de protection. Il nous faut prier pour cela. J'entends des voix, mais pas beaucoup, mais quelques voix qui s'élèvent et qui disent « Priez sans juger. Priez sans juger. » Avons-nous une place dans nos prières pour nos autorités ? Paul le dit à Timothée, hein, « Priez pour les autorités, priez. » Et je dirais, avons-nous même un espace de foi pour croire que Dieu peut-être toucher des gens de cette autorité. On se dit, ben avec ces attentats, des gens vont être touchés. Et est-ce qu'on exclut automatiquement les gens les plus haut placés ? Notre président, notre premier ministre, nos ministres peuvent être aussi touchés. Voilà, il faut qu'il y en ait un espace de foi. Attention à ce qu'il n'y ait pas de négativité qui tue la foi et qui ôte cet espace de foi. Et qui nous rend incapables de prier pour les autorités. Diapositive suivante. Voilà. Vous connaissez cette image, enfin c'est une image à côté certainement du Bataclan. Nous chrétiens, on a manifesté ce cœur miséricordieux pour participer à la guérison des cœurs blessés. Alors, dernière partie, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ouais. On doit reconnaître notre besoin de dépendance. Difficile pour nous, Français, très difficile, très difficile. On se confie beaucoup dans l'homme, hein, dans ses performances. Dans les deux jours qui ont suivi les attentats, je suis allé m'isoler un petit peu à Bouvines. Et puis tout ce que Dieu me donnait, j'étais conduit à lire les 8 premiers chapitres d'Ésaïe. Et dans tous ces chapitres, à chaque fois, il y avait des avertissements quant à l'orgueil. Il y avait des avertissements. Attention, je veux abaisser ce qui est élevé. Je veux abaisser ce qui est élevé. Et alors moi, j'ai pensé à cet événement qui est passé presque dans l'oubliette, à cause des attentats, le lendemain, un TGV a déraillé. C'était le premier accident de TGV mortel en France. Et il y avait seulement, heureusement, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes, mais la moitié ont péri. Or, le TGV est une source de fierté, hein, pour la France. Ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. La France était fière de son TGV. Hein. La France a besoin d'humilité et a besoin de réaliser qu'elle ne doit pas s'écarter de Dieu, mais dépendre de lui. Voilà, la marche humble avec Dieu, c'est cette dépendance, dépendre de lui, chercher son conseil, voilà, avant toute décision. Et Dieu nous interpelle en ce moment à être des gens qui cherchent, avant de prendre des décisions, on cherche son conseil, on cherche. On a besoin de lui, on a besoin d'entendre sa voix. La marche humble avec Dieu, c'est cette dépendance donc aussi pour chercher son conseil, mais pour le craindre, lui, plus que les hommes. La crainte de Dieu, ce n'est pas la terreur de Dieu, c'est le souci de ne pas lui déplaire. C'est le souci de lui plaire, hein? Et Dieu a travaillé mon cœur récemment, il m'a dit, Jean-Luc, tu fais trop attention à ce que les gens pensent de toi. Et ça, c'est pas bon. Alors voilà, trop attention, et quelquefois ça nous paralyse. Et j'ai dû à un moment prendre position, je prends conscience qu'il y a certainement besoin de guérison là-dedans. Et parfois on est trop dépendant de ce que les gens pensent. Vous faites trop attention, mais plaire à Dieu en premier. Et enfin, la marche humble, c'est manifester l'esprit serviteur. Et je rajoute, avec l'esprit serviteur, l'esprit d'équipe et l'esprit de corps. Et dans les jours qui ont précédé, je venais d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'Église, dans une réunion qui n'était pas au Havrin du tout. Et j'ai parlé là-dessus. Pouf ! Le Saint-Esprit, après le soir de cette rencontre, il était attristé en moi. Pourquoi ? Parce que ce soir-là, j'étais en présidence d'une rencontre avec quelqu'un et je ne l'avais pas respecté. Enfin, je l'avais presque ignoré. Le Saint-Esprit m'a repris, était attristé. Il dit, mais enfin Jean-Luc, tu avais quelqu'un qui était à côté de toi. Ah ! Personne ne m'a fait la remarque, c'est simplement le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et il m'a fait comprendre que marcher humblement avec Dieu, c'est reconnaître qu'on est dans un corps. Et que même les plus humbles dans son corps ont leur place. Et que je dois les respecter. Cette marche humble, ça fait partie aussi. Voilà. Attention, l'orgueil, ce n'est pas seulement une attitude d'arrogance. C'est parfois une attitude de négligence, de manque d'attention, de manque de respect de l'autre. Jésus est maître à la tête du corps. Donc attention à tout égocentrisme, nombrilisme, dans notre manière de servir le Seigneur. Tout ce qui est contraire à l'esprit de corps et d'équipe. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Et là, je vais reprendre une citation que Pascal avait citée dans son dernier message. Elle m'est revenue et comme conclusion. C'est une phrase d'Abraham Lincoln qui disait « Dans chaque problème se cache une opportunité. » Et alors, tu avais cité aussi Churchill, je crois, ou c'est moi qui l'ai trouvé dans Internet, je ne sais plus, mais enfin bon. Et Churchill dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. » Un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Dans ce qu'on vit en ce moment, Dieu nous demande de saisir l'opportunité, de manifester davantage le règne du Christ en nous, avec ce cœur miséricordieux dont Dieu pourra servir pour la guérison des cœurs blessés, avec cette humilité pour dépendre de lui et nous confier en lui plus que dans les hommes. Confrontés à des peurs légitimes. On peut être à la terrasse d'un café et puis boum, nous tirer dessus. Ouais. Voilà, est-ce que chacun ce matin, on peut recevoir cette parole de Michée ? Voilà, Michée 6:8. On va remettre le verset, il est là. Ouais, tu peux le remettre. Ouais, c'est la suivante. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut recevoir cette parole ce matin ? avec une promesse magnifique. De Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Ça, c'est la promesse de cette parole. Vous pouvez relier 2 Chroniques 7, 14 à Michée. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai. Alors, je vous invite à vous lever, et puis on va prier et on va chanter cette parole après. N'est-ce pas, Jacques? Ça va être bon, oui? On va pouvoir la chanter? Oui, on va pouvoir la chanter. On va chanter cette parole après. D'accord, mais je vous invite à prier avant et à vous joindre à cette prière que je vais faire maintenant. Je vous invite à fermer les yeux éventuellement. Voilà. Et vous joindre à cette prière. Seigneur, je veux me dépouiller ce matin de tout ce qui s'apparente à ma propre justice. Je reconnais mon statut de racheté. Il n'y a rien en moi qui mérite ton salut. Ta justice m'est offerte. Aussi, je la reçois ce matin comme un cadeau. Et je me revais de ce manteau de justice. Et ce manteau, c'est toi. C'est ta personne. Et je désire ardemment que tu règnes en moi. Avec ce cœur miséricordieux à ta ressemblance. Seigneur, je veux ce matin désencombrer ma vie de tout ce qui t'empêche de naître ou de grandir pleinement en moi et d'apparaître au monde avec ta lumière. On a chanté « Lumière du monde ». Prends mes craintes, prends mes peurs, prends mes réactions d'orgueil. J'y renonce maintenant. Viens guérir mon âme de toute maladie, de tout traumatisme enfoui. Je ne veux laisser aucun domaine, aucun terrain en dehors de ton regard et de ta lumière. Seigneur, je m'humilie devant toi ce matin et je déclare ma volonté de dépendre de toi et de marcher dans cette dépendance. Oui. Jour après jour, avec un cœur soumis à toi, guéri par toi. Et je veux ainsi participer à la guérison de mon pays. Amen. Amen. On va chanter cette parole. Voilà, on se l'approprie encore plus en la chantant. Certains vont reconnaître l'air. Je pense que c'est... Voilà. Amen. Sylviane, à toi.